Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le secrétaire général de la CFDT. Il publie « Syndiquez-vous !» point d'exclamation au Cherche Midi. Dialoguez avec lui dans 10 minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
La réforme des retraites, commençons par là, était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le gouvernement depuis insiste sur la nécessaire simplification des régimes de retraite. Passer d'une quarantaine à un système universel au nom de l'égalité entre tous les Français qui cotisent. On va parler avec Léa de l'équilibre financier dans une seconde, mais en l'état, Laurent Berger, le système des retraites français tel qu'on le connaît, qui est touffu, qui est baroque, dysfonctionne-t-il au point qu'il faille le remettre à plat? Un sondage du JDD hier dit que 4 Français sur 10 ne voient pas l'intérêt de la réforme. Et vous?
Ah si, la CFDT, elle voit l'intérêt d'une réforme pour pérenniser un système de répartition qui soit plus juste et plus lisible pour tous. L'idée, c'est pas de remettre en cause, évidemment, ce qui fait le fondement de notre système de retraite, c'est-à-dire la répartition, la solidarité entre les générations, mais à l'intérieur d'une même génération également. L'idée, c'est de rendre le système plus juste. Aujourd'hui, ce système, il pénalise qui ? Il pénalise les femmes, très majoritairement. Il pénalise ceux qui ont des carrières pénibles. Il pénalise ceux qui ont des carrières hachées avec beaucoup de chômage. Et malheureusement, on sait que c'est le cas de beaucoup de salariés. Et il pénalise tous ceux qui ont des carrières très plates, c'est-à-dire avec des très faibles progressions de carrière. Et donc, l'idée, c'est de consolider cette répartition, de mettre plus d'éléments de justice et de solidarité dans le système des retraites et donner un sentiment d'appartenance à ce système des retraites, parce qu'on sait qu'il est menacé également par une espèce d'idéologie de certains en disant mais peut-être qu'il faudrait aller vers un autre système que la répartition. Ben non, consolidons cette répartition, c'est la solidarité, mais rendons-le plus juste.
Et Gilles Carrez, le député LR et ancien président de la commission des finances, a dit « Il faut dire aux Français que la retraite à 62 ans sans malus, c'est fini ». Il a raison ?
Non, il a tort. Il a tort. Ce système de retraite aujourd'hui, parce qu'il y a eu des réformes successives, à des moments où le système des retraites était menacé dans son équilibre financier, eh bien, il n'est plus menacé dans son équilibre financier.
Alors, c'est pas tout à fait vrai.
Il y a débat.
Alors, on va juste rappeler le débat. Vous
le
dites, il est financé.
Le système des retraites aujourd'hui, ce qui le menace, c'est le fait qu'il est mité par des inégalités et pas par la question financière.
Laurent Berger, c'est vrai que le système des retraites est quasiment à l'équilibre depuis 2017, mais le Conseil d'orientation des retraites dit que si rien ne bouge, le système va s'enfoncer dans le déficit d'ici 3 ans. Il manquera 9 milliards d'euros, c'est-à-dire 0,4% du PIB. Ça vous fait pasciller ça ? Ça vous interroge pas ? Ou vous dites non, ils ont tort ?
Le pourcentage du PIB consacré à la retraite, c'est autour de 14%. Ce que je dis, c'est qu'on a connu dans le passé, et la CFDT a su s'engager. Donc il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. On a connu des moments où le système de retraite était menacé dans son équilibre financier. Aujourd'hui, le rapport du COR qui dit qu'il peut y avoir potentiellement une menace, il se base sur le fait qu'il a moins de rentrées, parce qu'il se base aussi sur le fait qu'il y avait la projection du gouvernement sur lequel il est revenu, tant mieux depuis, c'est de baisse du nombre de rentrées de cotisations des fonctionnaires parce qu'ils allaient baisser le nombre de fonctionnaires, etc. Donc moi je le dis très clairement, et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a M. Pisani-Ferry dans une tribune du Monde ce week-end la question du régime des retraites, de la réforme des retraites, ce n'est pas une question financière.
Mais dans 3 ans, ça ne le sera pas ? Dans 3 ans, ça ne le sera pas financier ?
Si vous avez une crise systémique de l'économie mondiale, parce que on préfère...
Je signale qu'il y a une récession qui menace. Hein.
Je le dis, c'est ce qui est sur la table, et ce qui a été y compris la promesse du président de la République, et on nous a dit depuis 2 ans maintenant qu'il voulait tenir ses promesses, c'est une réforme qualitative, une réforme de justice, qui augmente le minimum contributif, c'est-à-dire les retraites les plus faibles, qui reconnaît la pénibilité, qui reconnaît les carrières longues, qui reconnaît les discriminations dont sont victimes les femmes au moment de la retraite comme au moment du travail.
Plus de justice dans cette réforme. L'âge pivot, 64 ans, était votre ligne rouge, Laurent Berger. Emmanuel Macron a manifestement abandonné cette option. Est-ce que vous l'avez vu comme un geste à votre égard qui vous oblige d'un autre côté à être plus souple sur la négociation? C'est donnant-donnant.
Non, ce n'est pas un geste à notre égard. C'est un geste, c'est en tout cas une parole, parce que pour l'instant, ça reste une parole. Les discussions vont vraiment commencer dans la deuxième phase.
Ce n'est pas n'importe quelle parole non plus.
Non, bien sûr, mais depuis, ça a été un peu contredit par la porte-parole du gouvernement et d'autres. Ce qui est sûr, c'est que l'âge pivot à 64 ans pour tout le monde, c'est pénalisant pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes et c'est pénalisant pour les gens qui avaient une retraite pleine et entière dès 62 ans. Donc, c'est injuste. C'est injuste que ce soit le même âge pour tout le monde. Donc la CFDT l'a dit, tant mieux, on a entendu, et tant mieux si on a été entendu par le président de la République. Maintenant, il va falloir éclaircir un peu comment tout ça va se passer, et c'est l'objet de la discussion qu'on va avoir avec le Premier ministre cette semaine. Parce que la semaine dernière, il y a quand même 4 ou 5 ministres qui se sont exprimés, différents qui se sont exprimés sur la question des retraites. Il y a eu cette intervention du président de la République. On ne sait pas trop si le calendrier c'est une année ou quelques mois.
Voilà,
on
Gérald Darmanin dit une année.
Oui, et donc il va falloir, c'est l'objet, Edouard j'imagine, Philippe de la réunion avec le Premier ministre cette semaine, de toutes les organisations syndicales et patronales, de savoir quel est le calendrier, quel est le processus, comment ça va se passer, quelle est la place de la consultation citoyenne qui est annoncée.
Vous trouvez ça bien, la consultation citoyenne annoncée? Vous trouvez que ça va servir à quelque chose? Oui. Ça fait 18 mois que Jean-Paul Delevoye travaille sur cette réforme. Est-ce qu'il faut encore consulter pendant un an?
Je vais être très clair. Si c'est pour écouter ce que les citoyens ont à dire, on ne le fait jamais trop. Si c'est pour revenir à zéro et donner le sentiment qu'il ne s'est rien passé pendant 18 mois et qu'on n'a pas discuté, c'est hors de question. Ça serait complètement contre-productif. Mais si il est question de discuter avec les citoyens, d'écouter ce que sont les angoisses, les difficultés, les aspirations, ça peut être une bonne chose.
FO et la CGT, Laurent Berger, ont déjà annoncé leur mobilisation les 21 et 24 septembre séparément. Ces deux syndicats disent non à cette réforme. Pour le dire là, pour le coup, moi, très simplement, est-ce que la CFDT sera le syndicat qui, au contraire, va dire oui et signer?
Mais vous savez, il faudrait que vous me réinvitiez au moment où il sera question de donner une appréciation globale sur la réforme.
Il me semble que votre disposition d'esprit a évolué et qu'elle est nettement plus positive.
Vous savez, la réforme systémique des retraites, c'est-à-dire d'aller vers un régime universel, d'aller vers un régime qui répare les inégalités du monde du travail et qui soit plus juste, on le porte depuis 2003. Depuis 2003, la CFDT dit « il faut cette réforme systémique des retraites pour qu'on s'accroche à la répartition et qu'on nous dise pas petit à petit ben « la répartition, vous voyez, c'est le monde passé parce qu'il y a des déséquilibres, il y a des inégalités et on va passer à un autre système qui serait la capitalisation ». Donc, moi, c'est peu importe qui le fait. Si ça va dans le
Donc
sens de ce que porte la CFDT...
Pardon, mais s'ils abandonnent véritablement l'âge pivot... et que vous obtenez certaines choses sur la pénibilité, vous serez le syndicat qui dira oui à cette réforme.
S'il y a des choses sur la pénibilité, s'il y a des choses sur les retraites progressives, vous savez, ça a beaucoup évolué. Nous, on a fait une enquête qui s'appelle Parlons Retraite, où les salariés ont montré qu'ils avaient beaucoup évolué. Certains voudraient avoir des systèmes de retraite progressives. S'il y a le dispositif carrière longue qui est assuré, et s'il y a des dispositifs de compensation pour tous ceux qui, notamment dans les fonctions publiques, les enseignants, les personnels hospitaliers, ça a été dit par le président aussi, qui n'ont pas de primes et qui donc vont avoir un calcul de retraite qui peut être différent. Et puis, il faudra discuter de la transition. Pendant combien de temps ce système est en place? Si toutes les conditions demandées par la CFDT sont réunies, le rôle d'une organisation syndicale à ce moment-là, c'est de dire on a bien bossé, mais on n'en est pas là. Ça, ce sera peut-être au début d'année 2020, j'en sais rien.
Êtes-vous certain que les troupes, la base de la CFDT est parfaitement en ligne avec Laurent Berger?
Vous savez, la CFDT, elle fait des congrès. Elle fait des congrès et elle débat sur un certain nombre de sujets. Et sur la question des retraites, ça fait au moins 3 congrès successifs qu'on débat sur la réforme des retraites que la CFDT souhaite. Et dans ces débats, c'était une réforme systémique qui aille vers un régime universel, qui ne veut pas dire uniforme, qui tienne compte de spécificités professionnelles. Et donc, oui, je le dis, la CFDT, elle sait où elle veut aller, mais il y a des conditions. C'est la pénibilité, la retraite progressive, le minimum contributif.
J'entends,
on dit 100% du SMIC.
Aujourd'hui, à ce stade, Laurent Berger, il n'y a pas de mobilisation prévue de vos troupes, de la CFDT, dans la rue, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines?
Sur ce sujet, non.
Sur ce sujet, non.
L'allongement de la durée de cotisation est-il acceptable dès lors que l'âge pivot, lui, était inacceptable?
Non, mais la CFDT est claire. Il n'y a pas besoin d'éléments de réforme financière.
Donc il faut ni allonger la durée de cotisation,
mais c'est prévu par la réforme Touraine.
C'est
prévu par la réforme Touraine de 2013. D'aller à 43 ans de cotisation pour la génération, à compter de la génération 63, il y a une augmentation progressive. Il faut s'en tenir à cela, il n'y a pas besoin d'aller au-delà. pour la CFDT, c'est très clair, il n'y a pas besoin
d'aller au-delà. Ce sera votre ligne rouge, c'est la réforme Touraine.
Mais bien sûr.
Donc ça veut dire pas de réforme des retraites, on garde la réforme Touraine.
Mais si, c'est une réforme des retraites qualitative. On a tous dans la tête l'idée qu'une réforme des retraites, ce serait soit faudrait travailler plus, soit faudrait avoir moins, soit faudrait plus de cotisations. Non, c'est pas ça. On peut faire autrement à l'intérieur. Vous savez quand même que il y a des gens qui travaillent toute leur vie, avec quasiment le SMIC autour du SMIC, et qui, au moment de la retraite, ont un minimum contributif qui est à peine 50 euros au-dessus du minimum vieillesse. Et c'est pas acceptable. C'est notre système. Quand on veut créer un système solidaire, ce qu'était la philosophie après-guerre, eh bien, il faut que cette solidarité, elle ait du sens. Il faut que ceux qui soient le plus en difficulté aient la possibilité de sentir cette solidarité. S'ils ont le sentiment qu'ils sont à voir, ça peut pas marcher. Et donc, c'est ça qu'il faut réparer.
Une réforme fait souvent des perdants, Laurent Berger. Il y a des perdants à une réforme. Qui va perdre à cette réforme des retraites? Les fonctionnaires? Les cadres?
Non, je suis pas d'accord avec l'idée que les cadres perdraient. C'est ce que j'ai vu que certains disaient ça ce week-end.
Oui, les fonctionnaires
non plus. Mais cette réforme, c'est vrai qu'elle peut être plus, elle peut permettre qu'on ait un système de retraite plus redistributif. Vous savez, moi, je crois à la solidarité.
Les fonctionnaires non plus.
Quand je parle de l'impôt, je dis souvent qu'on voudrait une réforme fiscale qui soit plus redistributive. Et donc, plus redistributif, ça veut dire que ça a du sens dans un système de solidarité. Ça veut dire qu'on peut pas se contenter que quand on a fait toute sa carrière et qu'on a eu des trous parce qu'on a eu de la maternité, eh bien, on ait moins de retraite que l'homme qui a fait à peu près la même carrière et qui a pas eu de trous. Ça veut dire que quand on a des avantages familiaux, quand on parle des avantages familiaux et que quand on a eu 3 enfants, que c'est calculé en fonction du pourcentage de salaire et on sait que les hommes ont un pourcentage de salaire plus élevé, un salaire plus élevé et que c'est les femmes qui souvent malheureusement sont victimes de la parentalité dans le déroulement de carrière. Voilà, moi ces questions-là, on a le droit de les mettre sur la table quand même.
Elles sont mises sur la table et on entend ce matin votre état d'esprit qui est plutôt à défendre assez clairement la philosophie de cette réforme-là, qui est la réforme à point.
Si la réforme, elle ne se veut pas un élément financier. Et là où je suis inquiet, je le dis, c'est quand le gouvernement commence à distiller, y compris ce week-end, en disant mais il faudra l'équilibre en 2025, l'équilibre en 2025. L'idée, et moi je me tiens juste à ce qui a été dit par le président de la République dans son programme. Son programme, ça a été une réforme systémique des retraites, qualitative, qui ne se veut pas financière. C'est clair.
Le j'ai changé d'Emmanuel Macron cette rentrée, vous le croyez? Vous lui donnez une chance? Vous le sentez déjà qu'il y a un changement de méthode?
Oui, vous savez, il y a la méthode et il y a les actes. Ce qui est sûr, c'est qu'en cette rentrée, on a entendu qu'il y avait cette volonté de changer de méthode. Tant mieux, mais ça se mesurera aux actes. Nous avons été reçus, par exemple, avec les 19 organisations qui avons lancé le pacte du pouvoir de vivre pour une transition sociale et écologique par le Premier ministre. Ça faisait quelques mois qu'on demandait à être reçus par les uns ou les autres pour expliquer ce qu'on souhaitait en termes de transition écologique et de justice sociale. Mais tout ça, il faudra qu'il y ait des actes. Il faudra qu'il y ait des actes en termes de transition écologique, en termes de relèvement des minima sociaux, etc. Donc on verra à l'usage.
Vous-même, vous disiez l'année dernière que Emmanuel Macron avait perdu votre numéro de téléphone. Est-ce qu'il l'a retrouvé? Est-ce que vous l'avez vu avant l'été?
Oui, je l'ai vu avant l'été. Mais la question n'est pas tellement celle-là. Vous savez, la question, elle est comment on fait en sorte que face aux 3 défis qui sont devant nous, qui sont les mêmes en fait à peu près que l'année dernière malheureusement, c'est-à-dire le défi de la transition écologique. Et on voit bien que c'est fondamental. Le défi de la justice sociale, c'est-à-dire qu'une société qui refait sens. Et le défi de la crise démocratique, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus confiance dans le collectif, dans la solidarité. Comment on y fait face? Eh bien, on y fait face en travaillant avec les uns et les autres, avec les corps intermédiaires, avec la société civile.
Ça se
mesurera aux actes et aux propositions, aux actions menées.
Mais on se souvient tout de même, Laurent Berger, de vos colères l'an dernier à ce micro et ailleurs. Vous étiez l'un des critiques les plus audibles de la politique d'Emmanuel Macron. Mais ça y est, vous aussi, vous avez été séduit.
Pourquoi vous parlez au passé?
Le ton a changé.
Si vous m'interrogez sur la réforme de l'assurance chômage, je continuerai à vous dire tout le mal que j'en pense. Si vous m'interrogez sur le plan de rénovation thermique des logements, et où il y a un affichage politique, mais il n'y a pas les moyens qui vont avec, le ton n'a pas changé. Si vous m'interrogez sur le fait qu'on ne relève pas le RSA dans le PLF, ou le PLFSS, il n'y a pas projet de revaloriser les minima sociaux, le ton n'aura pas changé. Donc, mais moi, je ne veux pas être un opposant ni un partisan, je veux être un syndicaliste. Et sur la question des retraites, s'il est question de construire plus de solidarité, plus de justice, plus de lisibilité, eh bien, j'en suis. Et c'est juste ça qu'il faut comprendre.
Ce matin.
Stéphane est en ligne. La parole aux auditeurs. Vous nous appelez de Paris. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, je voulais savoir, par rapport à tout cet ensemble de ces régimes spéciaux, s'il ne serait pas plus intéressant ou juste de limiter la durée de cotisation en fonction de l'espérance de vie. Dire vous êtes cadre supérieur, vous allez vivre jusqu'à 75 ans, vous êtes ouvrier en général à 60 ans, c'est terminé, entre guillemets. Donc est-ce que il ne serait pas juste, plus juste de calculer cette durée de cotisation en fonction de l'espérance de vie?
Merci, merci Stéphane pour cette question. Laurent Berger vous répond.
Oui. Monsieur Berger, je vous écoute.
Bonjour. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il faut tenir compte de la pénibilité des carrières. Et c'est pour ça que nous considérons que quand, et c'est ce qu'on avait obtenu en 2003, quand on commence à travailler très jeune, il faut partir plus jeune. Quand on a des métiers pénibles, il faut que ce soit compensé. Quand on a travaillé la nuit, par exemple, c'est pour ça qu'on se battra pour que le personnel hospitalier ait de la reconnaissance de pénibilité. Donc, après, sur l'espérance de vie en moyenne, il faut faire attention parce qu'il y a de grandes divergences. On n'est pas tous égaux face en termes de santé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, dans le même état d'esprit de ce que vous dites, tenir compte des carrières et de la façon dont on vit son travail, parce qu'on ne parle pas assez du travail. La question, c'est comment on vit son travail. On voit bien dans notre enquête que des gens ont envie de partir de façon plus progressive, d'aller un peu plus loin, et d'autres de partir beaucoup plus tôt. Il faut tenir compte de ces carrières et de ce qu'est la spécificité, notamment de la pénibilité d'un certain nombre de métiers, pour que les gens partent plus tôt.
On retourne au standard. Bonjour Yvan.
Oui, bonjour.
Bienvenue,
bonjour.
On vous écoute.
Oui, bien, on ne fait pas dialoguer utilement des pots de terre et un pot de fer. Et pour que la concertation soit utile, il faudrait d'abord que les citoyens, et donc les syndicats, disposent eux aussi, comme le gouvernement, de l'initiative et du vote des lois, grâce au référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Avec cet outil démocratique et efficace, les Suisses, en 2017, ont abrogé une loi sur les retraites qui allait augmenter l'âge de départ en retraite des femmes d'un an et les cotisations de tout le monde.
Et donc 83%... la CFDT devrait se battre pour ça, à vous entendre.
Ben oui, 83% des Français y sont favorables, ça garantirait à la CFDT d'être écoutée, et si elle ne l'était pas, d'en appeler, d'imposer à 100% un référendum pour en appeler à l'arbitrage de la population.
Merci Yvan, Laurent Berger vous répond.
CFDT, elle n'est pas opposée à des référendums sur certains sujets. Un référendum systématique, vous parlez de la Suisse, c'est très intéressant. Alors d'abord, il y a une culture. La Suisse, elle a aussi décidé en termes d'immigration et de questions sociétés, parfois des choses assez régressives par le référendum d'initiative citoyenne ou le référendum global. Vous savez, moi je crois à une démocratie qui s'articule autour de trois aspects. La démocratie représentative, qui est le pouvoir de l'élection. La démocratie participative, citoyenne, qui peut s'exercer à certains égards par le référendum, mais aussi par des consultations, comme il y a une convention écologique à l'œuvre aujourd'hui, pour essayer de faire des propositions sur la transition écologique. Mais aussi la démocratie sociale, avec des corps intermédiaires qui regroupent des intérêts de gens qui sont pas toujours d'accord. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur la base de la CFDT, les militants de la CFDT, ils n'ont pas tous la même situation. Vous imaginez bien que les gens qui travaillent dans le bâtiment, qui subissent des pénibilités extrêmement fortes, ils sont pas la même situation que d'autres salariés qui subissent des pénibilités moins fortes. Et donc, ça veut dire que le rôle d'une organisation syndicale, c'est aussi de faire que des intérêts comme ça convergent au titre des valeurs portées, d'ambition, de principes.
Juste un petit mot sur, puisque vous employez vous-même le terme ce matin, corps intermédiaire. Corps intermédiaire, vous écrivez dans votre petit livre que vous publiez au Cherche Midi Syndiquez-vous, vous dites, je n'aime pas ce terme, il est moche. Et vous l'employez pourtant.
Oui, parce que vous savez, on emploie des mots des fois qu'on n'aime pas parce que c'est pour se faire comprendre. C'est acteurs sociaux. C'est tous
ceux. Pourquoi vous n'aimez pas corps intermédiaire?
Parce que corps, ça peut faire un corps étranger. Mais ça peut faire corps étranger aussi. Ça peut faire un peu le truc. Et puis parce que ça donne l'impression qu'on ferait de l'intermédiation. Vous savez, moi je suis pas entre les deux. Je suis pleinement un syndicaliste, un travailleur et qui avait. Mais donc c'est vrai que vous avez raison de me reprendre. C'est plutôt des acteurs sociaux, des associations. On s'appuie pas assez dans notre pays. On parle de transition écologique. Il y a des choses qui se font, même si c'est trop peu de mon point de vue, sur par ce gouvernement, sur l'économie circulaire, sur le gaspillage, etc. Mais s'ils ne s'appuient pas sur les gens qui vivent concrètement dans les territoires, dans les filières professionnelles, etc., il n'y a rien qui se passera. Et donc c'est ça que je veux dire par acteurs sociaux et non pas corps intermédiaire.
Une question de Paul sur l'application de France Inter. Pourquoi parle-t-on toujours d'allonger la durée du temps de travail et jamais d'augmenter les cotisations? Merci d'avance.
D'accord. Moi, d'abord, je pense qu'il ne faut pas allonger la durée du temps de travail dans cette réforme. C'est clair. Je crois même, vous savez, que la CFDT, elle porte une ambition qui s'appelle la banque du temps, la banque des temps, pour que tout, pendant la carrière, on puisse avoir des temps pour souffler. Et on pense même que s'il y avait une augmentation de cotisation, ce qui n'est pas dans l'air du temps, ça devrait servir d'abord à alimenter cette banque des temps pour que les gens puissent mener des projets personnels pendant leur carrière et s'arrêter un peu parce qu'on bosse des fois trop tous pendant à certaines périodes de la vie. Bah, tout simplement parce que depuis un certain nombre d'années, est apparu dans le paysage l'idée qu'il y avait trop de prélèvements obligatoires, entre guillemets. Et ça, c'est pas à moi qu'il faut le reprocher. J'ai toujours dit quel était le sens de l'impôt, de la solidarité, du financement de la protection sociale par des cotisations. Mais c'est vous, votre auditeur a raison, c'est pas forcément une question, question tabou.
Deux questions d'actualité, si vous le voulez bien. D'abord, sur les privatisations, Bruno Le Maire a dit qu'elles vont avoir lieu. La Française des Jeux, assez rapidement d'ailleurs, il a précisé. Le référendum sur Aéroports de Paris, pour l'instant, n'est pas un immense succès. Est-ce que vous pensez qu'il faut accompagner ces privatisations et qu'il faut se mobiliser contre?
Non, moi je ne suis pas pour. La CFDT n'est pas pour ces privatisations, elle est contre. Sur la Française des Jeux, qui fait moins parler, il y a quand même une question aussi de santé publique. Il ne faut pas oublier que la Française des Jeux, il y a des questions autour du jeu, il y a des questions d'addiction. Il ne faut pas oublier qu'il y a des questions qui peuvent se poser autour du blanchiment. Et moi je crois que l'État puisse avoir une intervention sur une entreprise de ce type, c'est utile. Sur Aéroports de Paris, moi j'ai vu des argumentaires en disant oui, mais finalement ce ne sont plus que des zones commerciales.
Des supermarchés, oui.
Non, mais il ne faut pas se foutre de la gueule du monde, excusez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est un des plus grands hubs européens, c'est des endroits hyper stratégiques, donc il faut, je crois.
Pourquoi
pas...
Pourquoi le référendum ne marche pas? Enfin, ne marche pas,
parce
c'est
que
un peu
ça
violent.
A été vu, je vais vous dire, Madame Salamé, ce que je pense, c'est parce que ça a été vu comme une manœuvre politique. Parce que ça a été présenté. Moi, j'ai pas des.
Ça a été présenté par tout un certain nombre de partis politiques qui vont de la droite à Jean-Luc Mélenchon.
Parce qu'il faut, vous savez, moi je crois que plutôt que la posture, il faut le fond. Que les acteurs publics, les acteurs sociaux, les acteurs politiques, ils doivent porter du fond. Il faut aller sur le fond, sur ce que voudrait dire une privatisation d'ADP. C'est se priver d'un élément stratégique au terme de transport aérien qui est, on le sait, extrêmement important avec beaucoup de concurrence. Donc, il y a aussi une question foncière, de patrimoine, etc. Donc, il faut aller sur le fond. Et simplement sur « on veut être contre », ça marche pas. Il faut toujours faire des contre-propositions, argumenter. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est une mauvaise chose et je suis pas sûr que ça se fasse. En tout cas, il faudrait pas que ça se fasse.
Laurent Berger, il y a un autre mouvement social qui se poursuit, qui ne faiblit pas. C'est celui des urgences. Désormais, 233 services sont en grève. Chaque jour, il y en a un peu plus. Pourquoi la CFDT n'est pas en première ligne sur
non,
ce
mais
conflit?
La CFDT, elle y est. La CFDT, elle y est, monsieur Demorand, au CHU de Rouen.
Je dis en première ligne, c'est parce qu'il y a un collectif, une autre forme de mobilisation, c'est pour ça?
Bah, parce que on a sans doute du mal à se faire entendre, même si la Fédération Santé Sociaux de la CFDT prévoit une mobilisation début octobre sur ce sujet, et sur l'hôpital en général, et pas simplement les urgences. Mais des équipes CFDT sont très impliquées, je pense à celle de Rouen, avec lesquelles que je suis particulièrement, ils sont à la manœuvre. Donc, il faut... Vous savez... dans le mouvement syndical, il y a le bruit, et puis il y a l'écume, et puis il y a aussi le fond. Ça fait depuis 10 ans qu'on dit que l'hôpital est en grave difficulté. Moi, j'avais dit il y a 5-6 ans que l'hôpital était au bord du burn-out. On y est. Mais c'est pas que dans les urgences. C'est dans les urgences parce que le système de santé est mal organisé, mais c'est aussi dans d'autres services qui pâtissent d'une organisation et d'un manque de moyens très fort.
Allez, une petite minute sur ce livre, Syndiquez-vous, donc, que vous sortez en cette rentrée. Et d'abord, est-ce que c'est une référence à Indignez-vous de Stéphane Hessel?
J'aurais pas cette prétention, c'est simplement un appel, c'est un militant qui un jour en Bretagne m'a dit, mais je vais vous le dire comme il m'a dit, excusez-moi, mais bordel Laurent, quand est-ce que tu vas dire aux salariés que s'ils veulent que ça bouge, il faut aussi qu'ils se syndiquent?
Alors bordel, vous le dites ce matin, vous racontez dans ce livre, vous qui vous confiez assez rarement, que vous étiez le timide de la famille, celui qui ne parlait pas le plus quand vous étiez enfant. Est-ce que c'est ce trait de caractère qui explique que vous soyez orienté naturellement vers la CFDT plutôt que la CVT? on avait parié sur cette question.
C'est bien, vous avez raison de faire des paris. Moi j'ai parié avec mes filles que j'allais dire un mot ce matin, mais je ne serais pas capable de le dire. Donc,
C'était quoi le mot?
Vous voulez que je dise boucle d'oreille? Et voilà, j'ai dit, j'ai gagné. Vous voyez, tout simplement, moi je crois que...
C'est une vraie question, hein, quand moi, même.
Ouais, c'est une vraie question. Bien sûr, c'est une vraie question, je vais y répondre. Mais vous savez, la CFDT, elle est fière d'escalader. Elle est devenue la première organisation syndicale pas en faisant des grandes déclarations, pas avec des gens qui sont toujours les plus visibles, les plus marquants, mais simplement parce qu'elle fait un travail de terrain énorme. Et moi, ce livre, il est juste un hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui, tous les jours dans les entreprises, font un travail de dingue pour défendre leurs collègues, pour créer du collectif, pour créer de la solidarité.
Donc CFDT, c'est pas Confédération des timides, hein, on est d'accord ?
Non, c'est pas Confédération des timides, mais c'est Confédération des gens qui, lorsque ils s'expriment, ils haussent la voix, ils ont derrière un peu de back-office et ils ont des idées.
Merci Laurent Berger d'avoir été au micro d'Inter. Syndiquez-vous, point d'exclamation est publié au Cherche Midi.